Alors, si vous voulez tourner avec moi dans Éphésiens 3, versets 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors, si vous remarquez dans le dernier verset, il dit « À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations. » Alors, il ne s'adresse pas juste aux Éphésiens de l'époque, il s'adresse aussi à nous aujourd'hui, en 2015. Alors, c'est intéressant de voir cela. Alors, si vous voulez, on va demander à Dieu qu'il nous ouvre l'intelligence et nous fasse comprendre sa parole. Alors, notre Dieu, nous venons à ta sainte présence, nous sommes rassemblés, Seigneur, en ton nom. Nous voulons adorer ta glorieuse et sainte personne. Nous voulons, Seigneur, être attentifs à l'écoute de ta parole parce qu'elle est profonde, elle est riche, elle est puissante aussi. Et, Seigneur, on désirerait non seulement comprendre les principes qui y sont enseignés, mais on voudrait également obéir à ce que tu nous enseignes à l'intérieur de ce verset-là, parce que c'est d'une grande richesse et d'une grande profondeur et d'une grande utilité aussi pour notre plus grand avancement et pour le développement de notre marche spirituelle. On te demande ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, on avait dit que le titre du sermon, c'était « Connaître l'amour de Christ, une insondable bénédiction ». Alors, souvent, on va donner un titre comme ça, on s'arrête pas à réfléchir au sens des mots. Quelque chose qui est insondable, ça veut dire que peu importe comment de temps j'y penserai, combien de temps les gens me l'expliqueront, jamais je n'aurai atteint le fond. L'amour de Christ, on ne peut pas la sonder exhaustivement. On peut la développer, on peut l'augmenter, mais on ne peut pas se rendre jusqu'au fond. Parce que c'est infini, par définition, infiniment, ça ne sera jamais atteint par l'homme, ni de ce côté-ci. Alors, même si je prendrais toute ma vie, disons que je serais venu au Seigneur à 17 ans, ce qui n'est pas le cas, là. Puis que j'aurais étudié jusqu'à 77. Ça m'aurait mis 60 ans d'études des Écritures, c'est quand même pas mal de temps. Pensez-vous qu'au bout de 60 ans, même si j'avais été l'étudiant le plus sérieux, le plus impliqué, le plus industrieux, on pourrait dire, pensez-vous que j'aurais compris l'amour de Christ, l'amour de Dieu, et bien d'autres choses encore qui sont révélées dans les Écritures? Bien sûr que non. Alors, ça nous montre une chose, c'est quand on étudie les Écritures, c'est d'une profondeur très souvent qui dépasse de beaucoup notre capacité d'entendement. Alors, quand je donne comme titre « Connaître l'amour de Christ », alors, une bénédiction insondable. Alors, si on regarde comme il faut le contenu de ce passage-là, c'est une prière. Alors, ce que Paul cherche à faire, c'est à demander à Dieu, à cause de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, à développer en nous une capacité de comprendre et d'expérimenter l'amour de Christ. Parce que, comme chrétien, ça ne se peut pas qu'on ne sache pas un petit peu quelque chose de l'amour de Dieu. Tu sais, on en sait des bouts, on en sait des choses, mais ici, ce qu'il est en train de demander, c'est un développement. Un développement, une augmentation, une croissance de notre compréhension et aussi de notre expérimentation de l'amour de Christ. Alors, on va tout développer ces idées-là tantôt. Alors, je vous avais mentionné tantôt que j'avais utilisé le prédicateur anglais Martin Lloyd-Jones, qui est un médecin, qui a vécu de 1899 à 1981. Alors, c'est quand même un contemporain. Il y avait un homme qui a beaucoup écrit, un homme qui avait une très grande influence, plus particulièrement dans les milieux anglophones, milieux d'Angleterre, bien entendu, et aussi tous les pays anglophones du monde, et bien plus large que ça, dans le fond. Parce que, regarde, moi, je suis un francophone, puis j'utilise... Et il y a plein de monde comme ça, de d'autres langues, qui sûrement profitent de son œuvre. C'est intéressant de regarder qu'est-ce qu'un bonhomme comme ça, d'une intelligence, très grande intelligence, peut dire sur un passage comme ça. Alors, je vais vous le rappeler, on l'avait mentionné la semaine dernière. Alors, il dit, de ce passage-là, il dit, ce serait de la folie que de prétendre ou assumer que cette sublime prière est facile à comprendre ou facile à exposer au moyen de la prédication. Il dit, je confesse humblement qu'à l'intérieur de mon ministère de prédication, je n'ai jamais été aussi conscient et jamais expérimenté davantage mon insuffisance et mon impuissance que devant ce passage particulier. Wow! Il dit quelque chose de profond. Il est en train de dire que malgré toute sa culture, malgré toute son expérience chrétienne, devant ce passage-là, il est comme, oh, c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre et non plus pas facile à expliquer. Quand j'ai lu ça, j'ai quasiment eu envie de dire, bon, ben on va laisser faire. Parce que là, je me suis dit, si lui, il dit qu'il n'est pas capable, moi, je ne me compare pas à Martin Lloyd-Jones, ça c'est sûr, certain. Là. Enlevez-vous ça de l'esprit. Je sais que c'est un gars de beaucoup supérieur à moi. Alors, mais c'est quand même intéressant qu'il dise ça, parce que ça nous donne une idée. Aborde ce texte-là avec humilité. Aborde ce texte-là avec prière, demandant à Dieu de te faire comprendre le plus haut que tu peux aller, toi. Alors, on se doit de méditer ces versets-là. Ce n'est pas des versets qu'on va lire. Je ne sais pas si ça vous a fait la même chose que moi. Quand on lit la Bible la première fois d'un couvert à l'autre, on commence par Genèse, on s'en va, puis à un moment donné. Moi, quand je suis arrivé à Éphésiens, ça m'a fait un effet particulier. À cause des mots qui sont utilisés. Dieu t'a aimé de toute éternité. Les affaires, il parle d'insondable, il parle d'incompréhensible, il parle de concepts comme ça, et il parle de choses qui sont tellement fascinantes. Il parle de Christ, puis il dit que c'est incompréhensible, que c'est insondable. Et il parle de choses qui devraient élever nos esprits. Moi, la première fois que j'avais lu Éphésiens, c'était exactement l'effet que ça m'avait fait. Je disais un passage, je me disais à moi-même, de quoi il parle ici, là? C'est comme, à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes, pas juste lire en surface, mais arrêter sur les mots et chercher à comprendre la signification de ce qu'il veut dire. Alors, c'est un passage qui est profond, qui se doit de nous faire prendre conscience que c'est un passage qui demande de l'étude, c'est un passage qui demande de la méditation et de la prière. Autre chose qu'on avait fait remarquer la semaine dernière, c'est que Paul écrit cette lettre-là, c'est une lettre, l'épître aux Éphésiens, une épître, c'est une lettre, qui écrivait à l'Église des Éphésiens. Et une chose qui a été remarquée, il ne demande pas à l'Église de prier pour qu'il soit libéré de prison. Ce qu'il demande, c'est ça, cette prière-là. Alors, il ne dit pas, je souffre dans cette prison, on est vraiment maltraité, on a des morceaux de fer autour des pieds, on a des morceaux de fer autour des... Et c'est sûrement qu'il devait souffrir, là. Parce que les prisons de l'époque, c'est pas les prisons modernes, c'est pas les hôtels modernes qu'on... Aujourd'hui, les prisons, c'est presque des hôtels, mais pas à cette époque-là. Cette époque-là, c'était vraiment la grosse misère. Et a remarqué qu'il ne fait pas même la mention de demander aux Éphésiens prier pour que je sois libéré de ce lieu. Il prie, alors il n'est pas centré sur sa personne, il est centré sur la personne des autres chrétiens. Il a vécu une expérience, il a expérimenté quelque chose de l'amour de Christ, et il prie Dieu de permettre que par l'Esprit, les gens en arrivent à expérimenter la même chose que lui a expérimenté. Mais tout ça à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Alors bien sûr, ça l'implique que si quelqu'un veut connaître cette expérience-là, bien entendu, la première chose, le premier prérequis, c'est qu'il soit régénéré, né de nouveau, qu'il ait compris qu'il a reçu la grâce de Dieu, qu'il a été sauvé et que maintenant il se doit de vivre selon les enseignements de Jésus-Christ. Alors, on a vu que dans le verset 14, il dit « à cause de cela », bien entendu, quand il dit « à cause de cela », il fait référence aux deux premiers chapitres et la première partie du verset du chapitre 3. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. À cause de quoi? Souvent, on va lire ça et on ne se pose pas la question. Il dit, à cause de cela, de quoi tu parles, là? Il parle de ce qu'il a dit avant. Alors, qu'est-ce qu'il dit avant? Il dit, si vous souvenez, dans Éphésiens 1, qu'est-ce qu'il est en train de leur rappeler? Que Dieu, et voyez-vous dans le verset 3, ça dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Quand vous regardez le verset 4, il y a le verset 4, il y a le verset 7, il y a le verset 11 et il y a le verset 13, qui commencent toutes par les mêmes mots, « en lui ». Alors, c'est à cause qu'on est en Jésus-Christ qu'on peut connaître ces différentes choses-là. Verset 4, « En lui, alors Dieu a pris des âmes de toute éternité sur tous les êtres humains qui n'étaient pas passés sur la terre, on avait choisi un certain nombre, qui, eux, éventuellement, dans l'espace et dans le temps, recevraient la grâce à cause de la personne de Jésus-Christ, mais parce que Dieu le Père les a placés en Jésus-Christ. » On est en lui. Quand on est chrétien, on est en Christ. Voyez-vous, le verset 4 dit, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Donc, Dieu a élu ceux qui étaient prêts à être sauvés de toute éternité dans son amour et à cause de la personne de Christ. Alors, c'est une des choses, quand il dit « à cause de cela », qui fait référence. Quand on s'en va dans le verset 7, il dit « En lui », encore « en lui », qui lui? Christ encore. En Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés selon la richesse de sa grâce. Qu'est-ce que les Écritures nous enseignent sur notre état avant notre salut? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand on dit tous, c'est tous les êtres humains qui sont nés d'un père et d'une mère à l'exception d'une seule personne, Jésus-Christ. Tous les autres êtres humains qui viennent au monde naissent pécheurs. Et les Écritures nous disent que Dieu exige que pour entrer et vivre en sa présence pour l'éternité, il faut qu'on ait fait deux choses. Si tous les péchés qu'on a faits, d'abord on hérite du péché d'Adam, alors c'est ce qu'on appelle souvent en théologie le péché originel, ça, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui paye pour. Et ensuite, tous les péchés qu'on appelle actuels, autrement dit, dans le courant de moi depuis, disons, que j'ai l'âge de 7 ans, si Dieu me mettait en pleine face tous les péchés que j'ai faits, toutes ces formes, probablement que je serais écrasé littéralement par la douleur. Parce qu'on a tendance, comme pécheurs, à voir notre péché de façon légère. Les Écritures nous disent qu'un seul petit péché nous mériterait d'être condamné, d'être plongé vivant dans le lac de feu pour l'éternité. On a de la misère à comprendre ça, hein? On dit, un petit mensonge, ça mériterait d'aller là pour l'éternité. Ben oui, c'est ça que Dieu dit. Alors, quelque part, il faut que chaque péché qu'on a fait, il y a deux possibilités. Ou c'est toi qui payes pour, en allant en enfer, puis ça va durer l'éternité. Ça durerait l'éternité si tu y vas. Ou c'est quelqu'un d'autre qui les a payés à ta place. Et c'est ça l'Évangile. Christ est venu sur la terre, il était fils de Dieu, et une personne était une personne divine, il s'est incarné dans une chair d'homme, il est venu sur la terre, a obéi à la perfection à son Père, d'une façon au décalogue, aux 10 commandements, à la loi, il l'a accompli à la perfection. Et sur la croix, Dieu le Père a jugé les péchés des élus en lui. Sur lui, a fait peser sur lui la punition qui était due à notre péché. Voyez-vous, le salut, la grâce, c'est simple et c'est sublime en même temps. C'est que Dieu nous dit, si tu as péché, et on a tous péché, tu vas aller en enfer, ou c'est toi qui payes ou c'est quelqu'un d'autre qui paye. Mais comment on peut faire pour que ce soit quelqu'un d'autre qui paye? Croire en son Fils Jésus-Christ. Croire que c'est quelqu'un d'autre qui l'a pris à ta place, qui l'a pris ta punition à ta place. Mais est-ce que c'était suffisant? Juste que Jésus subisse le châtiment que j'aurais dû subir, qu'il le prenne à ma place. Est-ce que c'était suffisant pour que je puisse vivre dans l'éternité, dans le ciel?
Non, parce que Dieu le Père demandait aussi une parfaite obéissance à la loi toute ma vie, sans aucune exception. Imaginez, là. On est en train d'étudier le décalogue en bas le dimanche matin à 8h30. On a une leçon en bas. Décalogue, c'est les 10 commandements. On les prend un par un. On regarde qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il nous défend, puis qu'est-ce qui est requis. Et si quelqu'un entend ces sermons-là, puis quelque part, il n'est pas ébranlé, là, c'est profond. Dieu est très, très exigeant. Il voulait qu'on fasse chaque homme sur la terre pour vivre en sa présence, qu'on ait accompli à la perfection cette loi-là, sans avoir manqué une seule fois, ni dans tes pensées, ni dans tes paroles, ni dans tes actions, ni des omissions. Une omission, c'est quelque chose que Dieu nous commande qu'on ne fait pas. Et Dieu nous dit dans les Écritures qu'on a même des fautes qu'on commet, qu'on n'est même pas conscient des fautes secrètes. Alors, il faudrait qu'on ait fait ça, tout le monde ici, qui est chrétien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut lever la main et dire « Moi, j'ai jamais menti. Moi, j'ai jamais volé. Moi, j'ai jamais eu de mauvaise pensée. Et là, on pourrait allonger la liste très, très longue. Aucune personne n'a jamais fait ça. Alors, si Dieu exige que quelqu'un, que ce soit toi qui paye pour ton péché ou que ce soit un substitut, la personne de Jésus-Christ, et si Dieu exige que j'aie une parfaite obéissance au décalogue toute ma vie sans aucun manquement, d'aucune forme, même les plus petites, alors à ce moment-là, comment puis-je m'en tirer si je veux vivre avec Dieu dans l'éternité, dans le ciel? Encore là, par substitut. Dieu dit que si je crois que Jésus a subi mon châtiment à ma place à la croix, et si je crois que Jésus-Christ a accompli la parfaite justice que lui exigeait encore là à ma place, c'est-tu merveilleux le salut? Quelqu'un d'autre qui fait les choses à ta place. Tu sais, il a pris ton châtiment, et là, on est loin de s'imaginer ce que ça peut vraiment signifier de vivre une vie dans le feu pour l'éternité. Et ça, il le fait à notre place. Mais on est loin aussi de comprendre jusqu'à quel point Dieu est exigeant dans le sens qu'on se devait d'accomplir les commandements encore là, la perfection. Et la foi, Dieu dit qu'il nous donne la foi en mettant devant nos yeux la personne de Christ et nous faire réaliser que c'est lui qui a pris notre châtiment à notre place, que c'est lui qui a accompli la loi à notre place. C'est-tu assez simple, c'est-tu assez merveilleux? Comment ça se fait qu'on présente ça des fois à des gens? On dirait qu'ils voudraient absolument que ce soit leurs œuvres. Pourtant, les Écritures sont claires. Ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés, c'est par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dans Éphésiens 2, 8, tu sais, ce verset-là, on l'a cité quasiment à vitam aeternam, là, on le cite continuellement. Mais c'est un verset qui est réel. Dieu dit qu'on ne peut pas gagner sa faveur en cherchant à obéir à la loi et par là gagner notre ciel. Après notre salut, là, il nous demande de suivre sa parole, d'obéir à ce qu'il nous demande et à obéir à ses commandements, etc. Alors, il est en train de leur rappeler cela. Et dans le verset 11, il dit « En lui », encore une fois, on parle de « en lui », « nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Alors, on est devenus héritiers. Si quelqu'un recevait un télégramme ce matin, je ne sais pas, disons que vous aviez une vieille tante ou un vieil oncle en France, il est milliardaire. Mais vous, vous ne savez pas, vous avez comme oublié ça, vous ne savez pas. D'un coup, il y a un notaire qui vous appelle, « Pourriez-vous passer à mon bureau, leur affaire à vous? » Là, tu passes au bureau, et là, il dit, « Voici, vous aviez un monsieur qui s'appelle un tel en France, et il valait $1 million. Et il vous a couché sur son testament. Vous êtes un héritier d'une grande fortune. » Je ne sais pas, ça serait quoi notre réaction? On pourrait se contenter d'un million, mais disons, on va dire un gros cadeau. Mais ici, il est en train de nous dire qu'on est héritier, mais héritier de Dieu. Autrement dit, tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a comme richesse, on a hérité de ça à cause de la personne de Christ. Et c'est en train de nous dire aussi qu'on a été prédestinés. Ceux qui sont des chrétiens vont être prédestinés. Et aussi, verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit,
qui vous a été promis. Donc, il fait référence à ces choses-là. Il fait référence aussi au fait que la grâce divine, les Éphésiens, eux, ils l'ont reçue. Il ne faut pas oublier qu'il faut se remettre dans l'esprit de l'époque. Les Juifs, à cette époque-là, étaient persuadés qu'eux seuls pouvaient avoir une relation avec Dieu. Tous les païens, pour eux, c'était des méchants, c'était des personnes qui ne pouvaient pas accéder à la grâce de Dieu. Et Dieu dit, en Éphésiens 2, versets 8 à 10, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, il leur rappelle toutes ces vérités-là à cause de Jésus-Christ, il leur rappelle qu'ils ont reçu la grâce divine. Une grâce, c'est quelque chose qui nous est donné qu'on ne mérite pas. Moi, souvent, la définition qu'on donne de la grâce dans les volumes de théologie, on dit une grâce, c'est une faveur imméritée. Donc, une faveur non méritée. Moi, j'ai lu quelque chose dans un livre de théologie un jour que je l'ai acheté parce que je trouve que c'est plus la vérité. C'est une faveur déméritée. Une faveur déméritée, ça veut dire que tu méritais le contraire de ce que tu as reçu. Une faveur, c'est comme, j'ai déjà donné l'exemple, une supposition que j'ai un voisin, puis que je suis millionnaire, je mets un paquet de billets de 1000 dans ma valise, et je pars, je vais me cogner à sa porte. « Voici, je te fais un cadeau. » Il a ouvert ça. « Hein, cadeau? $1 million, pourquoi tu me donnes ça? » Je ne la mérite pas. Ça serait la faveur imméritée. La faveur déméritée, c'est que vous êtes son voisin, ses enfants cassent des vitres chez vous presque à tous les jours, ils font mal à vos enfants, ils viennent briser votre propriété, ils sont des ennemis, carrément des ennemis, et toi, tu prends encore ton million, tu vas y porter. Là, ça exprime mieux qu'est-ce que ça veut dire une faveur déméritée. Il mériterait exactement le contraire, parce qu'il était ton ennemi. C'est ce que la parole nous apprend. Avant qu'on appartienne à Dieu, on était ses ennemis, et c'est alors qu'on était des ennemis qui est venu vers nous chercher dans sa grâce et nous accorder son salut. Autre chose qu'il veut leur rappeler quand il dit à cause de cela, c'est qu'ils étaient sans Christ comme païens. Verset 12, Éphésiens 2, 12. « Vous qui étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. » Là, on ne rentrera pas dans les détails de ça, les alliances de la promesse. Il faudrait étudier toutes les doctrines de l'alliance. Mais la promesse, c'était, l'alliance de la promesse, c'était la venue future d'une personne qui s'appelait Jésus-Christ. Alors, comme païen, il était étranger à cela. Maintenant, Christ, à sa venue, il a permis que le mur des séparations qui séparait les Juifs des païens soit aboli et que les païens profitent de la grâce que les Juifs avaient aussi. Voyez-vous dans le verset 14, car il dit « Car il est notre paix », parle de Christ, « par lui qui des deux » qu'est-ce qu'il veut dire par les deux? Les deux peuples, les Juifs et les païens. C'est comme si on verrait ça en deux, il y a deux classes. Pour les Juifs, il y avait deux classes de monde. Il y avait les Juifs et il y avait les païens. Ça, c'était toutes les autres nations. Pour eux autres, c'était des pourris, c'était... Alors, Jésus est en train de dire « Christ, car il est notre paix, lui qui des deux » des deux peuples, n'en a fait qu'un qui a renversé le mur de la séparation. Il est en train de leur rappeler toutes ces choses-là. Dieu a pensé à vous de toute éternité. Dieu vous a rendu héritier. Dieu vous a donné la grâce. Dieu vous a réconcilié avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Après, dire à cause de cela, si on vient de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il veut dire par à cause de cela, après ça, il dit, je fléchis les genoux devant le Père. Qu'est-ce qu'on fait quand on fléchit les genoux? Normalement, on prie. Il est en train de prier pour que le Père accorde aux Éphésiens et à toutes les générations qui viendraient ensuite de connaître une expérience bien particulière. Euh, Alors, si Dieu nous accordait de prendre une conscience plus aiguë de sa grandeur infinie, nous tremblerions littéralement de se trouver face à face avec lui. On ne reprendra pas tous les passages parce que ce serait trop long. Mais jusque Ésaïe 6, ceux qui se souviennent d'Ésaïe 6, c'est le passage où Ésaïe, qui est un grand prophète, se retrouve devant l'Éternel, il voit l'Éternel et les mots qui lui viennent à la bouche. Pourtant, là, on parle d'un prophète, on parle d'une personne qui était proche de Dieu, on parle d'une personne qui était obéissante au Seigneur. Et quand il voit le Seigneur, la réaction qu'il a, il dit « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Si l'Éternel permettait qu'on le voit comme cela, même si on est régénéré, ça nous ferait exactement cet effet-là. C'est trop... C'est la sainteté de Dieu éblouit et nous surprend énormément. Alors, Paul fait cette prière-là et il leur rappelle quelque chose. Il dit « Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre? » Il veut rappeler que le Père, il est non seulement... Il est le Père des créatures terrestres et célestes parce qu'il dit... Duquel, il parle du Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc, il parle de la paternité créationnelle. Donc, Dieu a créé tout ce qui existe, les anges dans le ciel et aussi les hommes qui sont déjà là, paternité créationnelle. Mais aussi, il veut parler de la paternité spirituelle parce que ce n'est pas tous les hommes qui sont sauvés sur la terre. Les hommes qui sont sauvés sur la terre, on les appelle les enfants de Dieu. Donc, Dieu est leur Père d'une façon particulière. On peut être tous les hommes sont des créatures de Dieu, sans exception. Mais ce n'est pas tous les hommes qui sont des enfants de Dieu. Parce que pour être un enfant de Dieu, il faut que tu sois réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ en ayant la foi à ce qu'on a mentionné tantôt. Sinon, tu n'es pas réconcilié avec lui. C'est ton péché que tu vas payer pour l'éternité. Alors, dans le verset 16 à 19, il va présenter la bénédiction. Il y a une phrase qu'il faut que je vous répète, parce que la semaine dernière, je la trouve tellement importante. Il dit, Lord Jones, il dit, « Autant le chrétien est au-dessus des païens, autant il y a un point où le chrétien peut et doit s'élever au-dessus de la médiocrité. » Ce qu'il est en train de dire, c'est que autant il y a une différence entre un païen et un chrétien. Si on se mettait à faire une liste de ça, on verrait qu'il y en a beaucoup de choses qui nous séparent un chrétien d'un païen. Il dit autant un est séparé de l'autre, autant dans notre vie chrétienne, il arrive un point où on peut et on doit s'élever au-dessus de la médiocrité. Ça ne veut pas dire que les gens qui n'expérimentent pas ce que l'apôtre est en train de dire dans le passage de 14 à 21, qu'ils ne sont pas des chrétiens. Ce que ça veut dire, c'est que Dieu t'accorde des privilèges et que tu ne vis pas à la hauteur de tes privilèges. Tu ne vis pas à la hauteur de ce que tu pourrais être, de ce que tu pourrais connaître, de ce que tu pourrais expérimenter. Alors, bien sûr, on se dit, est-ce que c'est à la portée de tous les chrétiens, cette expérience-là? Oui, parce qu'il dit... Avec tous les saints, il demande au Père que cette expérience-là soit, par le Saint-Esprit, à cause de Christ, soit accessible, il ne dit pas à certains saints l'élite, non, il dit tous les saints. Donc, c'est accessible à tous. Si les personnes ne se rendent pas là, c'est peut-être tout simplement parce qu'ils ne se donnent pas la peine de vouloir se rendre à une expérience comme ça. Alors, Martin Lloyd-Jones, encore une autre fois, il dit « La grande cause de notre présente condition dans l'Église. » Et quand on lit un petit peu sur ce que les grands observateurs de la scène religieuse évangélique remarquent sur la terre, beaucoup s'entendent pour dire qu'on est dans un état, on n'est pas trop en santé. Point de vue spirituel, je ne veux pas dire qu'on n'est pas sauvé. Ça veut juste dire qu'on pourrait être beaucoup plus... Alors, il dit, la grande cause de notre présente condition dans l'Église est que
que nous ne connaissons pas l'amour de Christ à notre égard. Hey, c'est une grosse, grosse, grosse déclaration, ça. La cause, la grande cause de notre présente condition dans l'Église est que nous ne connaissons pas l'amour de Christ à notre égard. Autrement dit, on ne sait pas comment Dieu m'aime. Je ne sais pas comment Christ m'aime. Et c'est ça la faiblesse de ma marche chrétienne, c'est parce que je ne connais pas ça. Et Paul, c'est ça qu'il essaye à faire comprendre. Vous souvenez-vous de son, quand vous lisez les Écritures, le passage où il dit, je ne sais pas si c'était dans mon corps, hors de mon corps. Qu'est-ce qu'il vivait, là? Il vivait quelque chose d'une grande intensité. Il ne sait pas s'il était dans son corps ou hors de son corps. Dieu lui faisait vivre une expérience d'une intensité telle que lui-même n'était pas sûr. Mais quand on regarde l'histoire des biographies de chrétiens à travers le temps, je ne sais pas si Jonathan Edwards, ça vous dit de quoi, un grand théologien, considéré comme un des plus grands théologiens américains de tous les temps, David Brainerd, Charles Spurgeon, George Muller, Sarah Cook, et on pourrait allonger la liste. Autrement dit, il y a des personnes chrétiennes sur la terre qui ont eu un niveau et une marche chrétienne de beaucoup supérieure à la moyenne. Alors, on peut voir ça de deux façons. On peut dire, dans tous les domaines, il y a toujours une élite, puis il y a toujours la masse. C'est pour ça que Paul dit ici. Il dit que nous, par les biographies, on peut voir l'élite. Oui, il y en a une élite chrétienne. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que l'élite, vous pouvez être vous une élite, vous aussi. Voyez-vous la différence? C'est pas juste de voir que Dieu a accordé des grâces particulières à certains individus. Oui, c'est vrai. Mais il est en train de dire que vous aussi, vous pourriez voler à des hauteurs pareilles. Mais il faut certaines choses. Alors, il est en train de dire dans le verset 16, « Afin qu'il vous donne, donc, la connaissance de Christ, sa profondeur, sa richesse, sa diversité, c'est un don de Dieu. » Afin qu'il vous donne, il n'a pas dit « afin qu'il vous prête », afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. Encore là, comment on peut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire « selon la richesse de sa gloire » ? Si ma définition est correcte, je pense qu'elle l'est, la gloire de Dieu, c'est la manifestation simultanée de l'ensemble de ses attributs. Moi, dans les livres de théologie, en général, tu trouves à peu près 25 attributs de Dieu. Sagesse, amour, miséricorde, bonté, etc. 25. Et chacun de ces attributs-là, c'est parfait, et celle qui semble impressionner le plus les hommes, c'est sa sainteté. Quand l'homme est placé devant la sainteté de Dieu, il est carrément aveuglé un attribut. Si Dieu permettait qu'on voit les 25 de façon simultanée, on ne serait pas capable. C'est pour ça qu'il a dit que personne n'est capable de résister à sa présence. On mourrait. Assez fort, on mourrait. Alors, selon la richesse de sa gloire, la gloire, c'est l'ensemble de ses attributs, mais développé selon la richesse. Qui peut savoir quelle est la richesse de la gloire de Dieu? Quelle est la richesse de chacun de ses attributs? Bonté, amour, miséricorde, etc. Qui peut comprendre ça? Personne. C'est trop profond. Mais il demande que Dieu accorde aux Éphésiens de l'époque, que Dieu accorde ce don-là de connaître l'amour de Christ, mais selon la richesse de la gloire divine. Il ne demande pas une affaire petite ici, là. Il demande une affaire énorme. Et là, il demande autre chose, d'être puissamment fortifié par son esprit. Alors, pour connaître cette expérience-là, Dieu nous dit qu'on a besoin d'être préparé parce qu'on ne serait pas capable de la supporter si on n'est pas prêt. Alors, il y a bien des choses comme ça que... Moi, si tu me demandes de courir le marathon, il est sûr que je vais mourir. Parce que je ne suis pas prêt pour ça. Je ne suis pas en forme, j'ai du surpoids. Et quand on n'est pas prêt pour quelque chose, on ne s'aventure pas là-dedans parce qu'on se casse la figure, comme on dit. Mais ici, tu es en train de dire, pour connaître cette expérience-là, il faut que Dieu, par son esprit, nous prépare dans l'homme intérieur, mais par le Saint-Esprit. On a besoin de ça. S'il ne fait pas ça, c'est ça qu'il demande à Dieu. Dieu, donne-leur par la puissance de ton esprit et selon la richesse de ta grâce de connaître cela. Alors, c'est un don vraiment généreux. Versets 17 et 18, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi,
afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Donc, c'est la demande qu'il fait, c'est que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Mais vous allez me dire, mais il habite déjà dans mon cœur. Et est-ce que, quand vous me dites ça, est-ce que vous mentez? Mais non. Christ habite dans le cœur de tout croyant. Mais là, c'est pas de ça qu'il parle. Il parle pas de la régénération, il parle d'une expérience de connaissance, d'expérimentation, de la profondeur, de la richesse, de l'amour de Christ qui dépasse, qui surpasse toute connaissance. Alors, faut pas penser qu'à cause qu'on est régénéré, qu'on a atteint le fond de la richesse de Christ. Et c'est ça qu'il demande. Il demande qu'on soit fortifié par le Saint-Esprit pour aller plus loin là-dedans. Qu'on expérimente ça. Pourquoi? Parce que plus on va être contrôlé par Christ lui-même, sa manière de penser, il va, un peu comme Paul dit, car pour moi, vivre, c'est Christ. À quelque part, tu es tellement habité par toutes les valeurs de Christ, son amour, sa miséricorde et sa patience et tout ça, que tu deviens un peu comme Christ. Il dit, ce n'est plus moi qui vis. Voyez-vous, Paul, c'est comme s'il perdait sa propre personnalité devant la profondeur de l'amour de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, après ça, il parle d'enracinement et de fondation. On sait à quel point un enracinement, c'est un arbre, c'est tenu par ses racines. Et on sait qu'un gros arbre, les racines sont aussi profondes en terre. Et après ça, on parle de fondation. Quelle personne dans les Écritures est utilisé avec le mot fondation ou pierre angulaire? Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ est la fondation de l'amour et la fondation. Alors, la compréhension, il demande qu'on comprenne cet amour-là envers tous. Verset 18, « Afin que vous puissiez comprendre. » S'il dit « vous puissiez », ça veut-tu dire qu'ils l'ont déjà? Non. C'est dit « afin que », dans le but que, vous puissiez comprendre. Autrement dit, il n'est pas en train de dire « vous l'avez déjà », je demande quelque chose que vous n'avez pas, que vous puissiez comprendre. Et là, c'est là que le verset est merveilleux, parce qu'il ne dit pas à l'élite chrétienne, il dit « avec tous les saints ». Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur? Alors, sa largeur, pour faire simple, pour aller rapidement, la largeur, c'est que Dieu, de toute éternité, a choisi des hommes de toute langue, de toute race, de toute tribu. Et il a dit qu'il y en aurait de tout. Alors, la largeur, c'est large. Alors, la largeur, hier, j'étais en train d'écouter un professeur qui parle de mission. Et hier, j'écoutais, il parle de 7000 dialectes sur la Terre. Puis il dit qu'à peu près 3500 dialectes, à peu près la moitié, actuellement, où la Bible est traduite dans les langues de ces gens-là. Il reste encore 3500 dialectes. Alors, il expliquait comment un missionnaire peut faire pour avancer l'Évangile dans une société où les gens ne savent pas lire. 80% sont illettrés. Comment tu fais pour présenter l'Évangile à des gens qui ne savent pas lire, qui ont une vision du monde, une compréhension du monde complètement à l'opposé de la tienne? Et il nous parlait des différentes technique, en comptant des histoires, en comptant les histoires de la Bible, en partant de la Genèse, la création, après ça, Noé, Abraham, Isaac, tu sais, toutes les autres histoires, mais il disait d'y aller dans l'ordre, de manière à ce que même des gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui sont habitués à une culture qu'ils appellent orale, soient capables de saisir les principales vérités de l'Évangile. Tout un défi, hein, parce que nous, on n'est pas habitués de fonctionner comme ça. Mais quand tu vas là, tu es obligé de t'adapter, ben non, ils ne comprennent rien, puis tu n'as pas aucun résultat. Alors, quand on parle de largeur, c'est vraiment que Dieu dit des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ça veut dire que tout à l'heure, je vous ai mentionné 7200 langues. Le Seigneur a dit qu'il était pour avoir des personnes chrétiennes de toutes ces langues-là qui savent lire ou qui ne savent pas lire. Le Seigneur va passer par-dessus ça, puis il va en sauver quand même. Mais c'est assez merveilleux. Alors, on parle de largeur, on parle de longueur. Longueur, il faut se souvenir que Dieu nous a dit dans Éphésiens 1 tantôt que déjà, il nous avait choisi de toute éternité pour recevoir le salut éventuellement
dans l'espace et dans le temps, à cause qu'il nous avait placés en Jésus-Christ dès les temps éternels. Donc ça, c'est la longueur. La profondeur, c'est un peu d'essayer d'imaginer la richesse de Christ. Il était au ciel, une personne divine avec toute sa beauté, et il décide, le Fils de Dieu, de venir, pour lui, là, il était le roi de l'univers. Venir se présenter devant les hommes et être perçu par des hommes comme étant un homme ordinaire, c'était vraiment une profondeur d'amour. Quand ça dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un saint homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Donc, on vient de parler de largeur, hauteur, profondeur. On parle maintenant de hauteur. Alors, vraiment, la hauteur veut nous faire mentionner que le salut, notre vie dans le ciel va être pour l'éternité. Encore là, pour nous, c'est difficile à comprendre parce qu'on est des êtres temporels. On a toutes nos expériences sont dans le temps. Et là, on va vivre pour l'éternité. Et verset 19, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il dit « Et connaître l'amour de Christ » qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, quand on regarde les versets 18 et 19, il y a deux verbes qui sont utilisés. Dans 18, c'est comprendre. Puis dans 19, c'est connaître. Ça peut arriver qu'on comprenne quelque chose, mais on ne connaît pas la chose. Tu sais, comme je vous disais la semaine dernière, je pourrais vous expliquer comment faire un site web. Ah, ça prend du HTML, ça prend du CSS, puis je commencerai à vous expliquer tout ça. OK, allez-vous-en chez vous, faites-en un maintenant. Alors, vous pouvez comprendre le principe, je pourrais vous le montrer sur un tableau partout, mais vous n'avez pas expérimenté. Donc, il faut, pour Christ, l'amour de Christ, il faut que tu commences par la comprendre, et ensuite, il faut que tu la connaisses, que tu l'expérimentes. Et il ne demande pas que tu y ailles juste un peu, là. Il demande la plénitude. Que tu y ailles jusqu'où tu peux aller. Si tu es un petit vase, il veut que tu te rendes, que Dieu te remplisse. Si tu es un gros vase, il veut que Dieu te remplisse jusqu'à ce que tu sois capable. Et apparemment que c'est des expériences extrêmement intéressantes à vivre. Moi, verset Jean 14, verset 20 et 21, dans la version David Martin. C'est très intéressant. Remarquez l'ordre aussi des versets. Il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Donc, Christ est dans le Père. Et vous, en moi. Les chrétiens, en Jésus. Christ est dans le Père. Nous, on est dans Jésus. Et après ça, il dit, et moi, en vous. Donc, tout à l'heure, on disait que oui, on avait déjà une expérimentation que Christ vit en nous. Mais est-ce qu'à cause qu'il vit en nous, on a été au maximum de la connaissance de l'amour de Christ? Bien non. Sans ça, il ne le demandera pas. Il dit, verset 21, je dis que c'est la clé. Celui qui a mes commandements, est-ce que comme chrétien, on a les commandements de Dieu? Ben oui. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Le Seigneur, il dit, si je vous ai donné des commandements, c'est pas juste pour le fun, c'est pour que vous y obéissiez. Et l'obéissance démontre, prouve une chose, c'est que vous m'aimez. Et gardez bien ce qu'il dit après. Et celui qui m'aime, donc si tu obéis aux commandements, tu démontres ton amour envers Christ, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et là, il dit, je l'aimerai et je me manifesterai. Je pense que ce verset-là est comme complémentaire avec le passage. Autrement dit, Dieu dit que plus on va être proche de lui, plus on va être sur le chemin de la sanctification, plus on va être sur le chemin de la mortification du péché, plus on va prendre tous les moyens de grâce qu'il nous a laissés pour s'approcher de lui, pour être proche de lui. Il dit, si vous obéissez, Si vous m'aimez, moi je vais vous aimer. Et le mot manifester, ça veut dire je l'aimerai et je me manifesterai. Je manifesterai moi. Il va manifester, ça veut dire rendre visible, rendre perceptible. Vous allez voir qui je suis vraiment. Alors, je vous avais donné la semaine dernière la citation de Daniel Steele. Alors, il y en a qui m'ont fait la remarque après le repas la semaine dernière que je pensais que c'est pas Daniel Steele, celle qui écrit des romans. C'est pas ce Daniel Steele, c'est un autre Daniel Steele. Alors, juste pour pas qu'il y ait de confusion. Alors, on va citer Daniel Steele, et c'était un homme qui avait des caractéristiques particulières. Il était un incrédule de nature et un sceptique. C'est lui-même qui le dit lui-même. Moi, tu ne me feras pas passer n'importe quoi, tu ne me feras pas croire n'importe quoi. Après ça, il dit, je suis un sceptique. Un sceptique. Alors, il va être confondu. Alors, voici ce qu'il dit. Presque chaque semaine, et parfois tous les jours, la pression de son grand amour s'exerce sur mon cœur dans une telle mesure de palpitation que tout mon être, corps et âme, gémit sous cette tension presque insupportable de joie. C'est ce qu'il est en train de dire, là. Il est en train de dire que quand Christ éveille en toi, développe en toi la connaissance de son amour, ça peut devenir tellement intense et ça te rend tellement joyeux que, comme il dit, tu gémis sous cette tension presque insupportable de joie. Après ça, il dit, malgré cette plénitude, il demeure toujours une fin pour connaître encore plus profondément cet amour consumant. Autrement dit, il est en train de dire, quand Dieu va te donner cette connaissance-là, tu vas être content, mais tu vas en vouloir plus, parce que plus. Alors, il dit, mes lèvres ne cessent de répéter, et ça, je trouve ça tellement beau, la dernière phrase qu'il dit. Moi, ça me touche mon cœur, parce que voici ce qu'il dit. Brûle, ô amour de Christ, dans mon cœur. Brûle avec intensité, jusqu'à ce que les scories de mes amours terrestres soient consumées, entièrement consumées. Ouh, ce qu'il dit là, c'est brûle, amour de Christ, jusqu'à ce que toutes mes amours terrestres soient complètement brûlées. Là, il ne demande pas des petites choses, là. Autrement dit, se rendre compte de la préciosité de cette expérience-là, il en veut plus. Il demande au Seigneur de tout brûler, qu'est-ce qui peut être un obstacle au développement là, et à une meilleure connaissance de ce qui va. Et, versets 20 et 21, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. » Alors, il est en train de parler de la toute-puissance de Dieu. Il dit, « Peu importe ce que vous demanderez à Dieu, peu importe ce que vous pouvez penser de demander à Dieu en termes de puissance. » Il dit, vous avez rien, vous connaissez rien du tout de la puissance de Dieu. Même dans nos demandes les plus, qui nous paraîtraient les plus exagérées, on dit, pour qu'il fasse ça, ça voudrait qu'il soit puissant pas à peu près. Mais il dit ici, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, qui est la puissance qui agit en nous? Le Saint-Esprit. Infiniment, pas juste un peu, là, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Voyez-vous, et ici, on a la preuve qu'il ne parle pas juste aux chrétiens de son époque, il dit, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations. Voyez-vous, Paul, il voyait loin. Sa prière n'était pas simple. Voyez-vous, même aujourd'hui, on est béni par une prière qu'il a écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et il a fait ça, fait 2000 ans. Et il pensait à nous, parce qu'il savait qu'il était pour avoir beaucoup de générations après. Il ne savait peut-être pas le nombre exact, mais il savait quand même qu'il était pour avoir d'autres hommes. Alors, Paul termine sa prière par une doxologie pour démontrer aux chrétiens que cette bénédiction est possible et hautement désirable. La raison est bien simple. Si vous pouvez regarder ça, ben moi, je ne serais jamais capable de monter jusque-là. Oui, tu as raison. Toi, oui. Mais le Saint-Esprit, oui. Alors, c'est ça la différence. Alors, elle est souverainement accordée et elle est aussi puissamment réalisée. Et j'aime bien ce verset de Galates 2:20 de Paul, quand il dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ce verset-là, on pourrait l'étudier 10 ans, je ne suis pas sûr qu'on aurait compris encore tout ce qu'il veut dire. Christ qui vit en toi, là, c'est toutes les valeurs de Christ, tout ce qu'il veut, sa volonté, soit tellement imprégné dans notre personne que dans le fond, on peut dire comme Paul, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je fais, je pense comme lui, je parle comme lui, j'agis comme lui. C'est tellement profond. Et après ça, dans le verset 21, il dit « À lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, et siècles des siècles, amen. » Alors, l'accomplissement de cette promesse-là est sûr et certaine, parce qu'il finit par le mot « amen », qui veut dire que tout soit accompli tel que je viens de le dire. Terminé par un grand théologien français, qui parle un petit peu de cette expérience-là, mais il a choisi des petites phrases choc pour nous faire comprendre le développement qu'il peut y avoir à l'intérieur de ça. Alors, le grand théologien s'appelle le pasteur Wilfred Monod, M-O-N-O-D. Il résume son expérience de cette bénédiction-là. Regardez bien, c'est l'art d'exprimer en peu de mots des grandes vérités qui sont extrêmement profondes. Il dit « au début ». Là, il parle de quoi? Il parle du début de sa vie chrétienne. Au début, tout de moi, rien ou presque de toi. Ensuite, deuxième étape, un peu de moi, un peu de toi. Troisième étape, puis, moins de moi, plus de toi. Quatrième, enfin, rien de moi, tout de toi. Voyez-vous la progression? Au début, il était rempli de lui-même, puis Dieu n'était presque pas présent dans sa vie. Ça peut-tu que nous autres, des fois, on soit comme ça un petit peu? Alors, au début, tout de moi, rien ou presque de toi, en parlant de Dieu. Ensuite, un peu de moi, un peu de toi. Puis, moins de moi, plus de toi. Autrement dit, un peu comme Jean-Baptiste, il faut que je croisse. Et il faut que je diminue et qu'il croisse. Alors, il prend moins de place, l'autre prend plus de place. Jusqu'à ce que, enfin, rien de moi, tout de toi. Alors, il comprend que, dans le fond, il n'y a plus rien, rien de bon qui peut sortir de sa personne. Il faut que ça vienne de Christ. Il faut que ce soit Christ qui s'exprime à travers tout son être. Et l'expérience de l'amour de Christ, c'est la source, c'est... Spring, comment on dirait ça, quelque chose qui... le tremplin. C'est la source et le tremplin de toute notre action chrétienne, de notre vie chrétienne. Plus on va laisser et qu'on va expérimenter la vie de Christ en nous, plus notre vie chrétienne va être riche, parce que, comme Paul le disait, c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc, automatiquement, tu vas éliminer un paquet de choses. Quelles sont les applications qu'on peut faire du texte d'aujourd'hui? Il y en aurait beaucoup. Voici ce que Martin Lloyd-Jones disait par rapport à ça, comme application. Où en sommes-nous dans les cercles concentriques de l'intimité avec Jésus-Christ? Lui, il disait, il y a trois grands cercles. Il y a un cercle au centre, un autre grand cercle autour, puis il y a un autre grand cercle plus loin. Et là, il dit, les chrétiens, on est soit dans l'un, soit dans le milieu, soit dans l'autre. Alors, il dit, où en sommes-nous? Le cercle des privilégiés, c'est ceux qui sont au centre, proches de Dieu, proches de Christ, connaissant et expérimentant l'amour de Dieu. Alors, c'est ce qu'on pourrait appeler le cercle des intimes. Tous les grands personnages, lisez n'importe quelle biographie, c'était tous des personnes de grandes prières, beaucoup de lectures de paroles de Dieu, et plein d'autres utilisations de moyens, le jeûne, et bien d'autres choses. Alors, le cercle des privilégiés, des intimes, qui connaissent cette bénédiction,
On est-tu au centre? Après ça, il y a un autre cercle autour. Le cercle de ceux qui ont un pied dans le monde et un pied dans l'amour de Christ. Là, on commence, dès qu'on n'est pas dans le centre, on est un petit peu mélangé dans nos affections. On aime le monde, on aime Christ en même temps, mais c'est dangereux, c'est un jeu dangereux. Après ça, le troisième, c'est le cercle des mondains, le troisième cercle complètement extérieur, trop occupé pour donner du temps à Christ. Jamais personne ne va pouvoir expérimenter l'amour de Christ s'il ne lui accorde pas du temps. Dans la prière, dans la lecture des Écritures, dans la méditation, dans la mémorisation des Écritures, dans tous les moyens de grâce. On pourrait faire un sermon ce matin sur les moyens de grâce. Ça va venir, ça en vient. Parce que j'ai l'intention de développer ça éventuellement. Donc, où en sommes-nous? On est-tu dans le cercle du milieu? On est-tu dans le cercle, un pied dans le monde, un pied dans l'amour de Christ? Ou on est-tu complètement à l'extérieur, un petit peu mondain? Trop, on n'a jamais de temps pour le Seigneur. Deuxième application, il faut éviter de croire que cette bénédiction est uniquement pour les grandes figures de l'histoire chrétienne. Pasteurs, missionnaires, travailleurs de l'Évangile, princes et princesses de prière. Et là, on pourra faire donner des milliers d'exemples de personnes qui ont ces titres-là, qui ont été proches du Seigneur, qui ont eu des vies pleines de fruits. Alors, on pourrait être porté à penser, « Ah, ben ça, c'est rien que pour eux autres. Ça, c'est pas pour moi. » C'est pas vrai. Alors, c'est déshonorer Dieu que de ne pas rechercher intensément cette bénédiction. C'est de ne pas croire sa parole, c'est d'être content de notre médiocrité et c'est refuser de connaître les hauteurs vertigineuses de l'amour de Christ. Troisième application, avec tous les moyens de grâce, prière, tout ce qu'on est capable de faire avec la Bible, lire, écouter, méditer, mémoriser, apprendre par cœur, et je me souviens pas, peut-être que j'en oublie un. Après ça, les actions de grâce, la confession des péchés, la mortification du péché, la repentance, l'abandon de nos mondanités, et on pourrait allonger la liste. Là. Autrement dit, Dieu va permettre que tu connaisses et que tu expérimentes et qu'il y ait une croissance dans ta vie, dans ce secteur de ta vie-là, si tu utilises, si Dieu sent que tu le cherches et qu'on ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper les hommes, on ne peut pas tromper Dieu. Dieu sait très bien quand tu cherches quelque chose avec intensité, avec authenticité. Jérémie 29, verset 13, « Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Alors, c'est sûr, c'est des expériences qui impliquent une recherche réelle, authentique, intense de cette bénédiction-là. Si on la veut, on la demande et qu'on prend les moyens pour l'obtenir, Dieu va bénir parce qu'il a béni une multitude d'êtres humains dans le passé là-dessus. Alors, le Seigneur Jésus-Christ habitera en vous de manière à complètement contrôler toutes vos facultés, vos pensées. J'aimerais tout ça que ce soit le Seigneur Jésus-Christ qui contrôle mes pensées. C'est pas pour les vôtres, mais pour les miennes, oui. Après ça, nos émotions. Après ça, nos actions, nos activités. Martin Lloyd-Jones disait, « Il n'y a sous le ciel aucune bénédiction plus intense que de connaître la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. » Il n'y a aucune bénédiction plus intense que de connaître la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Souvent, les Écritures nous parlent de quelque chose par rapport à nous autres. Ils disent qu'on attriste le Saint-Esprit de Dieu. Et une autre expression qu'on va utiliser, non seulement on l'attriste, mais parfois on peut aller même jusqu'à éteindre l'Esprit de Dieu. Quand dans l'Église, il y a trop de péchés, on ne peut pas s'attendre à vivre des choses semblables. Il faut que, si un vase est sale, avant de recevoir quelque chose de bon à l'intérieur, il faut que tu le laves. Il faut que tu le vides de son contenu indésirable. Alors que notre grand, glorieux et merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit béni, loué et adoré pour son amour infini envers nous. Amen.